Bonsoir à tous. Depuis qu'on a commencé cette série de conférences, on s'est posé la question de savoir à quoi sert le christianisme. Est-ce que le christianisme a un impact dans notre vie? Est-ce que le christianisme peut changer des choses dans notre existence? Ou bien est-ce que c'est simplement une forme, une tradition, une étiquette? Est-ce que le christianisme a une utilité, a une efficacité? Et on a vu quelques domaines de l'existence où, effectivement, quand on prend la parole de Dieu comme elle est, c'est-à-dire parole de Dieu, on se rend compte que le christianisme a beaucoup de choses à dire dans bien des domaines de notre vie concrète de chrétiens du XXIe siècle. On a vu la question de la souffrance, on a vu la question de quoi déjà? On a vu la santé. Il y a d'autres questions qu'on pourrait voir. Est-ce que le christianisme a quelque chose à voir avec la manière dont on gère notre argent? C'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Est-ce que le christianisme a quelque chose à voir avec la notion de pardon? Aujourd'hui, on va regarder une question délicate, qui est la question de la famille. Dans ce sens-là, vous comprenez bien qu'on ne va pas aujourd'hui faire le tour de la question, parce que en une heure et demie, on va pas étudier toute la question de la famille. Vous avez aujourd'hui des livres en quantité qui sont écrits par des chrétiens engagés sur ce sujet et qui apportent des informations extrêmement précises, extrêmement utiles sur la gestion de cette question familiale en rapport avec les éléments bibliques qui nous sont donnés. Comme nous l'avons fait dès le début, j'aimerais prendre la Bible, les Saintes Écritures, comme étant la référence. Si on regarde les Écritures superficiellement, on peut avoir l'impression que c'est un livre avec tout un tas d'histoires abracadabrant, avec des choses incroyables, des choses qu'il ne faut pas lire et qu'on ne comprend pas. Mais si on prend les choses un petit peu au sérieux et qu'on la prend dans sa globalité, on se rend compte que la Bible a quelque chose à dire dans les domaines précis du christianisme pratique d'aujourd'hui et aussi dans le domaine de la famille. J'aimerais justement ce soir vous le montrer rapidement, mais encore une fois, j'aimerais simplement ouvrir pour vous quelques fenêtres, quelques pistes de réflexion, parce qu'il est bien évident que ce sujet est extrêmement large et qu'il demande une étude approfondie si on veut aller un petit peu plus loin là-dedans. Alors, j'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire que j'ai trouvé dans un journal, une revue où une personne avait rassemblé les histoires de plusieurs couples qui racontaient comment ils s'étaient rencontrés. Alors, la personne qui avait fait cet article, évidemment, avait rassemblé des histoires totalement différentes, sans aucun rapport les unes avec les autres, pour montrer avec humour la diversité des rencontres. Et dans cet article, il y avait l'histoire racontée par cette dame qui présentait sa rencontre avec son mari. Elle disait que elle était déjà sortie avec plusieurs garçons, et puis chaque fois, les garçons lui apportaient une rose. Alors elle en avait un peu marre, chaque fois, les garçons arrivaient et lui donnaient une rose. C'est quoi cette histoire de rose? Elle commençait à en avoir assez de cette histoire de rose avec les garçons. Puis un jour, il y a un garçon qui l'a invité. Et puis elle racontait que c'était une catastrophe. Il l'a emmené dans un quartier mal famé de la ville. Il l'a emmené dans un Burger King. C'était mal propre. Ça s'est mal passé du début à la fin. Puis alors évidemment, ce gars-là, il n'est pas arrivé avec une rose. Il est arrivé avec un bouquet de roses. Alors la fille a dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Moi, j'en ai assez, tous les gars, ils arrivent avec une rose, là. Puis toi, voilà, tu t'amènes avec un bouquet de roses, c'est quoi cette histoire, là? Explique-moi ça. Le gars était là avec son bouquet de roses, puis il dit, mais en fait, c'est même pas une idée à moi. En plus! Alors, elle voulait des explications. Et puis le gars lui a dit, écoute, moi, je sais pas. Je sais pas pour les autres. Mais moi, je t'ai amené un bouquet de roses, parce que tu es la meilleure. C'est pas beau, ça? Et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Ta, 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 ta. Combien, j'en sais rien, c'était pas dit dans l'histoire. Voilà, une première introduction à cette histoire de la famille. J'aimerais vous en présenter une autre, mais cette fois-ci, je vais vous la lire, parce qu'il y a un dialogue que j'ai sorti de ce livre, et ne vous posez pas la question où j'ai sorti le titre de ma conférence de ce soir. C'est un livre qui traite aussi de toutes sortes de questions sur la famille. Et je vais vous lire un dialogue qui est ici dans le premier chapitre, qui sert aussi d'introduction à cette question de la famille, et qui se trouve être une expérience de Madame Ruth Peale, la femme de Norman Vincent Peale, qui est là sur l'image. Il est raconté ceci. Écoutez, c'est simplement un dialogue que je vais vous lire et qui va nous introduire dans notre sujet de ce soir. Pendant sa conférence, une jolie femme très élégante lui lança ce défi méprisant du fond de la salle. « Madame Peale, au cours de votre exposé, vous avez déclaré « Je pense que le mariage représente pour une femme la carrière la plus désirable. Ce que je pense, moi, c'est que le mariage n'existera bientôt plus et la plupart des étudiants de cette université sont de mon avis. Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire ni même souhaitable de se lier sexuellement à un seul partenaire lorsqu'on a à peine 20 ans et de se limiter à cette seule personne pendant le reste de sa vie. Nous pensons que c'est ridicule. Je couche avec un garçon qui me plaît, je ne veux pas qu'il m'épouse, je ne crois pas qu'il ait l'intention de le faire. Ce n'est pas ma première aventure amoureuse, ce ne sera probablement pas la dernière, je ne trouve rien de mal à cela. Un jour, quand je choisirai d'avoir un enfant, si je le fais, je serai peut-être obligé de me marier à cause de la société. À part cette circonstance, pour moi, pas de mariage. Si jamais je choisis néanmoins de me marier et que nos relations tournent mal, je ne veux pas être prise au piège. Madame Peale, nous ne sommes pas aveugles. Nous pouvons voir l'effet du mariage sur nos parents et sur d'autres, et nous n'aimons pas ce que nous voyons. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Dans la salle, toutes les étudiantes, les yeux brillants, se tournèrent vers Madame Peale. Elle répondit. Oui, j'ai une réponse. Et je suis en train de la vivre. Je me considère comme l'une des femmes les plus heureuses de la Terre. Je suis totalement mariée dans tous les sens du mot, physiquement, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. Nous sommes si unis qu'on ne pourrait pas glisser entre nous la lame d'un couteau. Nous ne sommes pas deux individus en compétition. Nous ne faisons qu'un et rien dans la vie ne peut être comparé à cela. Cependant, jamais vous ne saurez ce que c'est. Vous n'en aurez même pas la moindre idée si vous continuez à agir et à penser comme vous le faites. Je ne vois pas pourquoi, riposta l'étudiante. Parce que, répondit Madame Peale, en dehors du mariage, il n'y a pas d'engagement dans la durée. Vos relations n'ont pas cette profondeur qui vient du partage de tout, année après année, de l'action commune, de la volonté de jouer le jeu pour de bon. Croyez-vous que nous ayons trouvé le bonheur au bout d'une baguette magique ? Non, nous avons lutté, nous avons travaillé pour le conquérir. Pour nous, le mariage n'est pas un piège, mais un privilège. Toute la différence est là. Il y a beaucoup de bons mariages dans ce pays, mais ils ne se font pas tout seuls. Ils demandent de l'imagination, de la volonté, et la tâche n'est jamais terminée. Si vous prenez le temps, si vous faites l'effort nécessaire de rendre un mariage heureux, la récompense est tout simplement formidable. Voilà une autre situation tout à fait différente de la première et qui illustre une situation qui est très, très actuelle, très moderne, où l'on considère le mariage comme étant simplement une formalité et aujourd'hui on a mieux que ça à faire. Alors, la réponse qui a été donnée nous introduit, si vous voulez, dans notre sujet de ce soir. Est-ce que le christianisme a quelque chose à dire sur la question de la famille, autre que « mes amis, passez à l'église, faites une grande fête, et puis c'est fini ». Y a-t-il autre chose ? Est-ce que le mariage, C'est s'asseoir sur le banc d'une église avec beaucoup de musique et de tralala et des grandes robes et des froufrous. Est-ce que c'est autre chose que ça? Alors j'aimerais regarder avec vous là, quelques chiffres. Il y a ici une étude qui a été faite aux États-Unis par une dame qui a utilisé des statistiques de Statistique Canada, et je trouve ces chiffres parlants. En 1998, 36% des mariages canadiens avaient été rompus par un divorce. C'est-à-dire qu'en 1998, la totalité des mariages, c'est pas seulement dans cette année-là, hein, c'est la totalité des mariages, ça correspondait à 36% d'entre eux qui avaient été rompus par le divorce. Si vous prenez maintenant le chiffre du Québec, c'est 45% en 98. Et dans cette étude, il mentionnait ceci. La probabilité de divorce pour le deuxième mariage est plus grande que pour le premier. Manière de dire que ça s'arrange pas, quoi. Quelques chiffres pour comparer un petit peu. En 1969, la même donnée, c'est 14% des mariages avaient été rompus, donc la globalité. Hein. En 1975, c'était 30%. En 1998, c'était 36%. On n'a pas l'impression que la chose va en s'améliorant. Vous avez remarqué? C'est au contraire une situation qui se dégrade. Et c'était là les données de 1998, on est en 2006, vous pouvez imaginer que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui s'est amélioré. De plus, les chiffres que l'on avait tout à l'heure ne tiennent pas compte évidemment de ceux qui ne se sont pas mariés et qui par conséquent, se séparant, ne sont pas enregistrés comme un divorce non plus. Alors, la question est toujours la même. Que dit le mode d'emploi? Que nous dit la Bible sur le mariage et la famille? Ce soir, j'aimerais aborder ce sujet, le survoler, vous le comprenez bien, en deux volets. D'abord, en ce qui concerne le couple, et puis ensuite d'étendre cela à la famille, c'est-à-dire le couple et les enfants. Alors, dans un premier temps, il va être nécessaire, bien entendu, de retourner à ce que le Créateur nous a dit. Si nous reconnaissons, comme la Bible le dit, que Dieu est le Créateur, qu'il est le Créateur du monde et que c'est lui qui a créé non seulement le monde, mais l'homme et la femme, et par conséquent aussi le mariage, à qui pensez-vous qu'il va falloir aller pour demander la définition de ce qu'est le mariage? Je ne crois pas qu'on peut demander à un gouvernement, à une assemblée législative, de définir ce qu'est le mariage. Ça n'a pas de sens. Parce que aujourd'hui, la frontière est ici. Les gens, ils sont constitués de la même manière d'un côté et de l'autre de la frontière. Mais ici, un gouvernement a défini le mariage d'une telle manière. Je passe de l'autre côté de la frontière, je suis dans un autre pays. Et là, la définition du mariage est différente parce que un gouvernement a inventé une définition qui lui convenait. Ça ne marche pas. Dieu a créé les humains, et c'est Dieu seul qui peut définir le mariage. Personne d'autre ne peut se permettre de définir le mariage. Alors comment Dieu explique-t-il le mariage? Il faut retourner au livre des commencements, à la Genèse. Le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 24, on est encore là dans le contexte de la création du monde, Dieu définit en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors j'aimerais m'attarder avec vous un petit moment sur ce texte qui est d'une très grande richesse et j'aimerais en extraire une partie de ce qu'il contient. Vous remarquez qu'il y a tout d'abord dans ce texte une notion de détachement. L'homme quittera son père et sa mère. Il faut quelque part que le cordon ombilical soit coupé. Il y a d'abord un détachement de la cellule familiale pour qu'une autre cellule puisse se créer. C'est la première étape, un détachement. Et puis ensuite, il y a un attachement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, le mot qui est ici utilisé est intéressant, et j'ai mis là un texte d'Ésaïe qui est dans un contexte totalement différent, mais dans lequel le même mot est employé, pour vous montrer le sens profond qu'il y a dans cette notion d'attachement de Genèse chapitre 2. Dans Ésaïe, au chapitre 41, il y a une phrase là qui est indiquée avec le même mot, mais traduit différemment. Celui qui polie au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Il est question là du mot soudure. C'est le même mot qui se trouve utilisé dans le livre de la Genèse pour attachement. C'est dire à quel point, lorsque Dieu parle de mariage, il parle véritablement de soudure, de deux éléments pour n'en former plus qu'un seul. Cette image est très forte, je trouve, pour indiquer la constitution d'une nouvelle cellule. Pour constituer cette nouvelle cellule, il faudra d'abord un détachement, une coupure d'un côté pour souder deux éléments différents de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ce vocabulaire qui est employé par rapport au mariage est employé ici d'une façon très technique par rapport à la soudure, mais c'est aussi employé en rapport avec la relation de l'homme avec Dieu. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est le même vocabulaire, c'est le même mot. Et dans cette notion d'attachement que l'on retrouvait dans le mot soudure, il y a probablement plus que ce que le mot attachement ne donne comme idée, de véritablement constituer un. Et là on a quelque chose d'intéressant, c'est que l'on comprend que le mariage est en réalité une image que Dieu veut utiliser au sein même du christianisme et du monde pour nous aider à comprendre l'attachement qu'il y a entre le chrétien et Dieu. On comprend à ce moment-là l'importance du mariage. Et l'on peut comprendre aussi pourquoi le diable aujourd'hui s'attaque tellement à la destruction du mariage. Parce qu'en détruisant le mariage, il va détruire une des plus belles images que Dieu a créées pour nous aider à comprendre à quel point Dieu nous aime et voudrait que nous soyons soudés à lui. On comprend que le diable veuille détruire le mariage s'il y a une valeur très profonde dans cette institution divine. Il y a un détachement, il y a un attachement. Et cet attachement, j'aimerais le qualifier un petit peu plus dans le cadre du mariage. Cet attachement, c'est une alliance. L'Ancien Testament est rempli de textes qui parlent de la notion d'alliance. C'est une notion qui couvre l'Ancien Testament entièrement, extrêmement présente partout. Regardez par exemple ce texte de Malachie. « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Vous remarquez dans ce passage que on comprend que le mariage n'est pas un mariage pour un temps. La femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, mais c'est surtout la femme de ton alliance. Alors, il y a détachement, il y a attachement, mais vous comprenez bien que pour réaliser ce détachement et cet attachement, il faut qu'il y ait une certaine maturité. Il faut une certaine maturité pour pouvoir réussir cette transformation dans la vie de quelqu'un. Détachement de son milieu familial initial, constitution d'une nouvelle cellule. Et je ne parle pas d'une maturité du point de vue physique, je parle de la capacité de gérer sa vie, de gérer les éléments pratiques de la vie concrète de tous les jours. Je parle d'une maturité aussi dans le domaine relationnel avec l'autre et avec les autres. Et je parle bien entendu de maturité dans le domaine émotionnel. Dans la vie de couple, ça demande une certaine maturité. Ça ne peut pas s'improviser au gré d'une rencontre coup de foudre un soir dans un bar ou quelque part. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se tisse peu à peu et qui s'élabore. Ce n'est pas le fruit du hasard et ça ne nous arrive pas comme une tuile qui nous tombe sur la tête au coin d'un toit. La notion d'alliance montre à quel point cet attachement est solennel. Un autre texte sur l'alliance. Alors tu comprendras, et c'est ici dans le livre des Proverbes, alors tu comprendras, c'est le père qui parle à son fils, la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Wow, vous avez remarqué tout ce qu'il y a là dans l'introduction? Alors, la justice, l'équité, la droiture, la sagesse, la connaissance, la réflexion, l'intelligence. Vous avez remarqué, il y en a combien? Il y en a 7. Curieux, hein? Je continue le texte. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là, sont destinées à te délivrer de la voie du mal. Et le texte continue en présentant toutes sortes de difficultés qui seront évitées si ces choses sont vécues chez l'individu, et entre autres, pour te délivrer, entre autres choses, de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Vous voyez qu'il y a là une alliance bien précise, et c'est même pas dit ici l'alliance avec son mari, l'alliance de son Dieu. C'est dire à quel point Dieu considère que si l'on veut créer là une alliance durable, il faut que lui en soit le garant. Dans l'Ancien Testament, la notion d'alliance est une notion, comme je disais tout à l'heure, qui est présente un peu partout, mais qui est extrêmement riche. Une alliance, c'est quelque chose de solennel. Et dans l'Ancien Testament, vous retrouvez un nombre impressionnant d'alliances qui sont faites pour différentes raisons, mais les alliances sont toujours scellées par le sang, c'est-à-dire par les sacrifices. C'est dire à quel point l'Ancien Testament considère l'alliance, la notion d'alliance, comme quelque chose de solennel, d'extrêmement sérieux. Et pour vous donner une illustration, une alliance ne se rompt jamais. Par exemple, le peuple d'Israël avait commis un jour une erreur avec les Gabaonites. Vous trouvez ça dans votre Ancien Testament, des gens qui étaient venus pour faire alliance avec eux et qui les avaient trompés de A à Z. Il leur avait raconté des histoires incroyables et ils avaient avalé tout ça. Et ils avaient fait alliance avec ces gens-là. Par le sacrifice, ils avaient mangé ensemble, ils avaient fait alliance. Bon, un certain temps après, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait tromper. Est-ce qu'à cause de ça, l'alliance est devenue caduque? Non. Malgré le fait qu'ils avaient été trompés dans cette alliance, ils avaient le devoir d'être fidèles à cette alliance, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient tenus par cette alliance et ils ont fait les aménagements nécessaires pour pouvoir vivre avec cette alliance. Mais une alliance ne se rompt pas. C'est quelque chose qui est définitif. Vous remarquez ici l'importance de cette alliance dans laquelle Dieu a une part importante. Et on en reparlera tout à l'heure. Quand je rencontre des jeunes qui veulent se préparer au mariage, j'insiste pour leur dire, le seul mariage qui marche, c'est un mariage à trois. Il faut expliquer, hein. Le troisième étant Dieu lui-même. Précisément pour cette notion, à cause de cette notion d'alliance, c'est-à-dire quelque chose de très sérieux, de très solennel, qui se construit et qui fait de deux un. Finalement, il y a la constitution à cause de cette alliance, d'une nouvelle personne, nous l'avons dans le texte de la Genèse, ils deviendront une seule chair. Jésus reprend ce passage dans un texte de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, ainsi, Jésus dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et vous comprenez bien dans la comparaison de ces deux passages que le texte ne parle pas de la sexualité seulement. Il parle là de la constitution d'une nouvelle personne. Et la notion de mariage tient sa richesse en particulier de cet élément-là. Le mariage, ce n'est pas une association. Ce n'est pas des gens qui ont des intérêts communs et qui se mettent ensemble sous le même toit. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est une alliance dans laquelle deux personnes vont en constituer une nouvelle. C'est extrêmement important pour comprendre à quel point Dieu considère la profondeur, la force de cette soudure entre les deux personnes. Alors nous avons chacun nos personnalités, nos individualités, et elles ne sont pas à détruire, mais de deux personnes, on va faire une nouvelle personne. Ce qui veut dire que, étant marié, je ne peux pas vivre comme je vivais avant, quand j'étais tout seul. Je dois maintenant vivre en fonction du fait qu'on est deux dans cette nouvelle cellule. Et de la même manière, mon entourage ne peut plus me considérer de la même manière que quand j'étais tout seul, parce que maintenant, nous sommes deux dans cette cellule-là. Et mon entourage doit tenir compte du fait aussi que je ne suis pas tout seul. Des choix vont être faits ensemble, des orientations vont être prises ensemble. Je ne peux pas vivre tout seul, marié, comme je vivais avant. Il y a une constitution d'une nouvelle personne dans laquelle deux individus prennent part. C'est dire à quel point Dieu voudrait voir dans le mariage une véritable unité de cette nouvelle personne constituée. C'est une nouvelle personne. D'ailleurs, je trouve extrêmement regrettable que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans le cas particulier ici, garde des noms différents pour des conjoints. Dans un sens, c'est très anti-biblique, parce que Dieu veut constituer une personne nouvelle. Il faut donc qu'il y ait un nom commun pour les éléments de cette nouvelle personne. Et vous voyez la force qu'il peut y avoir dans l'idée d'avoir le même nom, la notion d'appartenance l'un à l'autre. Alors, quel que soit le nom qui est choisi, c'est pas la question, mais l'idée de rassembler dans un même nom la nouvelle personne, les éléments de la nouvelle personne qui est créée par le mariage, qui renforce cette notion d'unité et de complémentarité. Maintenant, j'aimerais prendre d'autres éléments. Vous voyez qu'il y a dans ce texte de Genèse une grande richesse, mais j'aimerais avancer avec vous dans plusieurs caractéristiques. J'en ai ici présenté 10 qui sont des éléments de la constitution du mariage selon le mode d'emploi biblique. Le mariage est sacré. Matthieu dit que l'homme donc, c'est Jésus qui parle, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il y a là deux mots que nous retrouverons un petit peu plus loin dans notre présentation. Le mariage est sacré. Si le mariage est véritablement ce que la Bible, comme la Bible présente, qu'on a vu superficiellement tout à l'heure, on comprend que le mariage est quelque chose d'extrêmement sacré aux yeux de Dieu, et je crois qu'il doit l'être autant aux yeux des humains. L'amour vrai n'est pas seulement un sentiment. Alors ça, c'est une notion qui nous est difficile de saisir à prime abord aujourd'hui, parce que le monde dans lequel on est va dans à l'inverse de cette notion-là. Regardez le texte d'Éphésiens 2, chapitre 5, qui est le texte que les jeunes mariés ne veulent plus jamais que je lise dans leur mariage. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est que je lise la suite où il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Ça, personne ne veut plus l'entendre. Mais on va y revenir. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors mes amis, messieurs, je ne sais pas si vous voyez le programme qui nous est demandé ici. Parce que si nous avons la prétention d'être capables d'aimer nos femmes de la même manière que Christ a aimé l'Église et s'est donné en sacrifice pour elle, alors nous sommes vraiment prétentieux. Je crois que ce passage nous aide à comprendre à quel point, si nous voulons vivre le mariage selon le mode d'emploi de Dieu, nous avons besoin de Dieu pour le réaliser. C'est dire quelle est la responsabilité des hommes, notre responsabilité dans le mariage. Aimer nos femmes à ce point-là. Et vous voyez encore une fois le lien entre le mariage et la relation entre le chrétien et l'Église, et Christ. Les deux vont ensemble et s'illustrent mutuellement. L'amour n'est pas d'abord, l'amour vrai n'est pas d'abord un sentiment. Parce que les sentiments sont sujets à mille et un paramètres qui font que ça monte et que ça descend. C'est des montagnes russes, les sentiments. Ça monte, ça descend, ça plonge, ça monte tout en haut. C'est très instable. Est-ce que vous pouvez construire quelque chose d'aussi stable qu'une alliance, comme le mariage, sur quelque chose qui navigue de jour en jour au gré des humeurs et des situations? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher si nous considérons que aimer, c'est un sentiment d'abord. Le sentiment a sa place, entendez-moi bien. Mais aimer, dans le sens biblique du terme, et dans le sens du mariage, ce n'est pas d'abord un sentiment. J'ai ici extrait d'un livre sur le mariage une citation que je trouve extrêmement éclairante là-dessus. L'auteur écrit, pardon, l'amour agapé, donc qui est le mot grec pour l'amour de Dieu dans le Nouveau Testament, est inconditionnel, comme l'amour de Dieu pour nous. C'est une attitude mentale fondée sur un choix délibéré de la volonté. Vous avez remarqué? C'est un choix délibéré de la volonté. Le texte nous met tout de suite sur la piste, le texte de Éphésiens 5. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pensez un instant. Est-ce que vous croyez que, au moment de la crucifixion, lorsque le Christ a donné sa vie pour l'humanité, est-ce que vous pensez que Jésus a fait ça par amour sentiment pour l'humanité? Est-ce que vous croyez que le Christ était tombé amoureux fou de ceux qui lui plantaient des clous dans les mains et dans les pieds pour le crucifier? Sûrement pas. Il avait fait un choix. Le choix d'aimer l'humanité et de la sauver à tout prix. Quoi que les hommes puissent lui faire, le Christ avait décidé d'aller au sacrifice qui était l'expression de son amour, non pas superficiel ou sentimental, mais d'un amour en profondeur, quoi que les hommes lui fassent. Et c'est là toute la différence. Et cet amour, dont le Christ est l'exemple, si vous voulez, se trouve être aussi l'exemple qu'il va nous donner pour l'amour dans le mariage. L'amour n'est pas d'abord un sentiment lorsqu'il est vrai, il est d'abord un choix délibéré de la volonté. Je choisis d'aimer. Alors, si vous avez, vous parents, des ambitions particulières pour vos enfants, un jour vous dites à votre garçon, à votre fille, « Oh, tu vois cette fille-là, aime-la !» Elle vous dit, oh, c'est pas comme ça que ça se passe, peut-être dans ton temps, mais pas à notre époque. Et il a raison et il a tort. C'est sûr que si on donne un ordre, aime telle personne, on va se dire, oui, mais bon, ça ne se commente pas. Et pourtant, aimer, c'est d'abord un choix délibéré de la volonté. Il y a des circonstances dans la vie où l'amour sentimental n'est plus là, pour mille et une raisons. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime plus pour autant? Non. Qu'est devenu alors cet amour choix, cet amour principe, le fondement même solide sur lequel va se construire un mariage, une alliance, une association à vie? Vous voyez là la différence? L'amour vrai ne peut donc pas être seulement ni d'abord un sentiment. Il faut qu'il s'agisse là d'un choix délibéré de la volonté. Et c'est nécessaire. Vous comprenez? Dans la vie d'un couple, il y a toujours des moments difficiles. Et si quand vient un moment difficile, on dit « Oh, ben ça vaut plus la peine, si ça va comme ça, bon, ciao, je vais en chercher un autre. » On est en train de dire en réalité qu'on a construit sur un amour sentimental, mais pas plus que ça. Si véritablement il s'agit d'un choix délibéré de la volonté, comme on l'a lu dans l'histoire tout à l'heure, on va y travailler. Ça ne va pas venir par un coup de baguette magique, ça va venir comme résultat d'une persévérance, d'une endurance, sur la longueur du temps, et qui va permettre de construire quelque chose de solide, sur une base qui ne sera pas une base seulement sentimentale. Numéro 4, le couple chrétien vit le principe de réciprocité. Alors c'est le même texte qui continue, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Vous voyez dans ce passage en particulier ce principe biblique de réciprocité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile à avaler parce que nous sommes dans une société qui a hautement valorisé l'idée de défendre ses propres droits. Je défends mes droits. Mais vous entendez fort peu de gens qui sont là pour défendre leurs devoirs. Où sont-ils? Est-ce que vous avez quelque part la charte de la défense des devoirs de l'homme? Je l'attends encore, celle-là. Alors, on est prêt à militer pour défendre ses droits. L'Évangile fonctionne totalement autrement. Il nous propose à l'intérieur du mariage le principe de réciprocité. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à vouloir défendre mes droits et à ce que l'autre satisfasse mes besoins et mes nécessités. Non, je vais le faire pour l'autre et l'autre va le faire pour moi. Je ne vais pas avoir besoin de réclamer mes droits parce qu'ils me seront donnés de l'autre côté. Et inversement, je vais donner à l'autre ses droits. Il n'aura pas besoin de les réclamer. Il va les recevoir comme une grâce offerte sur un plateau d'amour, si vous voulez. Le principe de la réciprocité dans le mariage est fondamental. Les deux individus qui constituent le mariage et qui vont constituer la famille, la nouvelle entité, ne sont pas en compétitivité. Ils sont en complicité. C'est très différent. Un mariage ne peut pas fonctionner sur la compétitivité. Mari et femme en compétition, c'est l'échec. Le mariage ne peut fonctionner que sur la complicité. Et dans ce sens-là, la réciprocité est possible. Si vous y pensez bien, c'est en réalité le principe fondamental que le Christ explique dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui occupe les premiers chapitres des évangiles, en particulier de l'évangile de Matthieu. Le principe de réciprocité. Et vous voyez qu'on est loin là de la revendication des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, de ceci, de cela. On est en train de demander l'accomplissement de nos devoirs, de nos responsabilités réciproques. Et là, on n'est plus en train, plus n'est besoin à ce moment-là de réclamer nos devoirs à corps et à cri. Vous voyez qu'il y a là dans la constitution du couple, selon le mode d'emploi de l'Évangile, une dynamique totalement différente. Le couple chrétien se constitue non sur le désir, mais sur l'harmonie. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, écrit ceci. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» En créant le mariage, Dieu savait très bien qu'il s'agit là d'une entreprise extrêmement délicate. C'est un mouvement d'horlogerie très délicat. Et Dieu nous dit, écoutez, n'en rajoutez pas. Ne rajoutez pas des difficultés et des barrières inutiles à la constitution de ce bijou délicat. Et une des barrières que l'on pourrait mettre, c'est la barrière d'une foi différente. Il est évident que si, dans un couple, les gens ont une foi différente, on est là comme assis entre deux chaises. Où vont aller les enfants? Ils vont se retrouver dans un foyer qui marche à deux vitesses. Il n'y aura peut-être pas le même jour de consacré à la foi. Ce ne sera peut-être pas les mêmes habitudes chez l'un ou chez l'autre à la maison. Ce ne sera peut-être pas la même manière de prier ou de vivre sa foi. L'un va croire ceci, l'autre va dire non, c'est faux. Les enfants font quoi là-dedans? Alors que les enfants ont justement besoin d'une base de stabilité dans tous les domaines pour leur permettre de grandir d'une manière solide. L'apôtre Paul ici rappelle ce principe-là. On ne peut pas constituer un foyer sur le désir. Tu me plais, je te plais, allons-y. T'as une belle tête, ça me convient. Elle est blonde, c'est ce que je voulais. Allons-y. On ne peut pas constituer le couple tel qu'on a essayé de le définir depuis tout à l'heure. Sur le désir, sur l'apparence, il va falloir qu'il y ait une harmonie en profondeur. Sur les choses qui sont essentielles à la vie, telles que la foi en particulier. C'est un autre élément de la constitution du foyer chrétien. Le couple chrétien se construit sur la pureté avant le mariage. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine est extrêmement éclairante sur ce point-là. Vous vous souvenez, c'est raconté dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Jésus rencontre cette femme et le texte est ici où il dit, la femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu as dit vrai. Jésus avait dit à cette femme, « Va chercher ton mari. » Et elle avait répondu, « Je n'en ai pas. » Et c'est là que Jésus lui dit, « Tu as raison. » Et lui révèle la situation dans laquelle elle se trouve. Et lui dit, « T'as raison. En fait, tu en as eu 5. Mais celui avec qui tu es maintenant et que tu penses être ton mari, n'est pas ton mari. » Autrement dit, tu vis avec quelqu'un sans avoir contracté avec cette personne une alliance selon le mode d'emploi. Jésus le lui dit très simplement. Ce discours nous éclaire énormément pour nous faire comprendre que le mariage ne peut pas être construit sur la sexualité non plus. Il est en réalité une alliance, comme on l'a vu, dans laquelle la sexualité a sa place, mais le couple chrétien se construit sur la pureté avant le mariage. Vous trouvez d'ailleurs à ce sujet de nombreux livres chrétiens qui montrent à quel point les relations avant le mariage sont destructrices pour la communication. C'est un petit peu, et je reprends là une image que James Dobson prend dans un de ses livres, c'est un petit peu comme si on prenait un collant, un papier, un scotch tape, et puis on le colle ici, on l'enlève, on va le coller ailleurs, puis on l'enlève, on va le coller ailleurs, puis on va le coller ailleurs. Quand vous l'avez collé 15 ou 20 fois, est-ce qu'il colle encore bien? Quand il faudrait qu'il colle pour de bon, il ne colle plus beaucoup. Et je crains qu'il y ait beaucoup trop de mariages qui ne collent pas pour cette raison-là. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. J'ai pris ce texte parce qu'il contient deux mots qui sont extrêmement intéressants. Le mot adultère ici correspond au mot moikeia et le mot débauche, porneia. Et ce mot est intéressant parce qu'il a donné des mots en français que nous connaissons, pornographie, etc. Et il est le mot général, ici traduit par débauche, mais il est traduit dans d'autres versions par d'autres termes et à l'intérieur du Nouveau Testament de façon différente suivant le contexte. Il est en réalité peut-être le mieux traduit en français par le mot fornication, qui indique toutes les relations sexuelles hors alliance du mariage biblique. Toutes. Et à l'intérieur de celles-là se trouve en particulier, entre autres, l'adultère, le moikeia. Donc, les Écritures sont assez claires sur ce sujet-là. La sexualité hors du mariage n'est pas dans le plan de Dieu, ni dans le mode d'emploi divin. Remarquez ici quelques chiffres qui sont intéressants tirés d'un article qui a été fait à propos d'une recherche en Angleterre. Il existe un lien direct entre la cohabitation et le divorce. Vivre dans une union hors mariage a un impact direct et négatif sur la stabilité du couple. Sur 993 personnes ayant vécu un divorce, 78% ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Par contre, sur 714 personnes mariées, et donc toujours mariées, 64% étaient vierges au mariage. Ceux qui ont eu des relations avant le mariage avaient plus de risques de commettre adultère que ceux qui n'avaient pas eu de relations avant le mariage. C'est extrait du rapport de cette étude qui avait été faite et qui indique qu'il y a une vérité à cela dans la réalité de la vie de couple. Numéro 7, le couple chrétien se construit sur la pureté, non seulement avant, mais dans le mariage. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » C'est intéressant de voir comme Salomon met les choses là, parce que on a parlé tout à l'heure de cette alliance dont Dieu est le témoin. Et il reprend cette même notion. Dieu observe tous tes sentiers. Il a été témoin de cette alliance avec la femme de ta jeunesse. Et il en est encore le témoin tous les jours de ta vie. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Écrit encore Salomon dans le livre des Proverbes au chapitre 6. C'est dire que dans le mariage, le mode d'emploi divin prescrit très clairement la pureté à l'intérieur même du mariage. C'est une alliance sacrée. Numéro 8, le mariage est pour la vie. Alors, si le mariage est véritablement une alliance, c'est une alliance sacrée, le mariage n'est pas pour 10 ans, jusqu'à ce que ça ne marche plus, puis bon, ma foi, on essaiera avec un autre. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnée sous le soleil. Et dans le Cantique des Cantiques, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Vous avez remarqué, Salomon ici rappelle la durée du mariage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité. Tous les jours. Nous sommes aujourd'hui dans une société de consommation. Quand j'aurai fini de boire l'eau de cette bouteille, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va la laver, la remettre dans l'armoire et la remplir de nouveau? On va la jeter. Cette mentalité de consommation a imprégné tous les domaines de notre vie. Et je crains qu'il ait imprégné aussi notre notion de la famille et du mariage. Quand ça va plus, ben ça va plus, on jette, et puis on, de toute façon, une de perdue, 10 de retrouvée, non? C'est cette notion de consommation. Le mariage, selon le plan de Dieu, selon le mode d'emploi divin, c'est un mariage à vie. Et ce n'est pas étonnant, parce que, je vous le disais tout à l'heure, l'image du mariage, le mariage est l'image de l'amour de Dieu envers l'humain. Et Dieu ne veut pas que nous ayons cette idée que cet amour peut périr quelque part en chemin quand ça ne marche plus. Dieu voudrait que cette image s'incruste dans notre esprit de son amour éternel, inconditionnel, parce que l'amour de Dieu est aussi un amour principe. C'est aussi un choix de sa part de nous aimer jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle le mariage ne peut pas non plus s'arrêter après 15 ou 10 ans si ça ne marche pas trop bien. C'est, si vous voulez, briser l'image, cette belle image que Dieu veut donner de lui et qu'il voudrait imprégner dans l'esprit de nos enfants, des enfants qui vont naître dans ce mariage. Évangile de Matthieu, chapitre 19. « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» C'est une bonne question. Si le mariage est à vie, pourquoi est-ce que Moïse a dit qu'il fallait donner une lettre de divorce ? La réponse est claire. Jésus leur répondit. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Le mot qui est employé ici est intéressant. Jésus donne la réponse et il dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur. » En grec, le mot est très simple, vous allez le comprendre, c'est le mot « sclérocardia ». En d'autres termes, c'est à cause de la sclérose de votre cœur, de la dureté de votre cœur, que Dieu, pour enrayer le mal, a prescrit qu'on écrive une lettre. Et vous savez qu'à cette époque, écrire, c'était toute une affaire, par opposition à renvoyer sa femme sur un oui, sur un non, sur un plat brûlé ou que sais-je. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. C'est cette notion de pérennité, de l'amour, du mariage, image de la pérennité de l'amour de Dieu pour nous. Dieu ne rompra pas son alliance avec nous. C'est nous qui la romprons avec lui. Le couple chrétien développe la complicité, pas la rivalité. C'est l'élément que je mentionnais tout à l'heure. Ici, un passage du Cantique des Cantiques. « Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. » Oui, vous aimez l'image, elle est intéressante, je l'ai beaucoup aimée, bien qu'elle soit en noir et blanc. C'est cette notion de complicité, non pas de rivalité. Si la rivalité s'installe, la soudure est cassée, si vous me permettez cette expression. Pas de compétition, mais la complicité. C'est extrêmement important. 10. Le mariage à trois, c'est le seul qui marche. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et en effet, je crois que si l'on veut construire un foyer sur la base du christianisme, on est en recherche de savoir en quoi le christianisme peut conduire notre vie, affecter notre vie. Nous avons là des éléments, quelques éléments en tout cas, qui nous montrent à quel point la parole de Dieu, la Bible, nous donne des lignes directrices à suivre pour construire un couple, un mariage, selon le programme de Dieu. J'aimerais maintenant avancer avec vous et voir quelques éléments. Vous voyez que l'on passe rapidement, mais j'aimerais voir quelques éléments qui concernent cette fois-ci la famille dans sa globalité, le couple et les enfants. Nos enfants nous sont confiés par Dieu pour les élever à sa gloire. Ils ne sont pas vraiment notre propriété. Nous en sommes, si vous voulez, des gestionnaires. Matthieu chapitre 18, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Dans le Deutéronome, je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Nous sommes des gestionnaires de nos enfants. Nous avons une responsabilité envers eux. Et Jésus dit, voilà les petits-enfants, vous les recevez, c'est comme si vous me recevez moi-même. C'est une manière de dire la solennité de cette responsabilité de l'éducation des enfants. Et dans ce sens, je crois encore que notre société moderne a pris de nombreux raccourcis dans ce domaine-là. Parce que je rencontre encore souvent des gens qui se réjouissent d'avoir des enfants, et quand ils les ont, ils se réjouissent de les mettre à la garderie pour que quelqu'un d'autre les éduque. Je crois que le Christ a vu l'éducation des enfants comme quelque chose de beaucoup plus solennel, de beaucoup plus important. Et ce n'est pas pour rien que dans le plan divin, il y a un père et une mère. C'est parce qu'il y a la nécessité de ces deux éléments pour donner l'équilibre aux enfants. Le texte du Deutéronome montre cette responsabilité de transmettre à la génération suivante quoi ? Les programmes de télévision ? Les paroles de Dieu, les enseignements divins. Deuxièmement, les enfants sont des éducateurs. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Remarquez encore une fois, on en avait parlé lorsqu'on avait abordé la question de la santé. La Bible ne nous dit pas ici, fais ça et tu auras la vie éternelle nécessairement. Dieu vise le bonheur déjà ici-bas, dans nos familles. Suis ses préceptes, retiens mes paroles et tu vivras. C'est une grâce de pouvoir recevoir de nos parents, l'un et l'autre, l'expérience de leur vie. Transmise non seulement comme une connaissance, mais comme un vécu qu'ils peuvent nous donner parce qu'ils nous aiment. Nous sommes des éducateurs. J'aime beaucoup ce texte qui a été écrit par une mère de famille au siècle passé. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas d'hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. J'aime beaucoup ce texte, parce que je me dis que si le monde en avait un peu plus, les choses iraient autrement. Pas des hommes qui s'achètent ou qui se vendent, mais des hommes qui appellent le péché par son nom, qui sont fidèles au devoir, comme la boussole l'est au pôle. Un passage extraordinaire. Il n'y a qu'une mère de famille qui peut écrire une chose pareille. Du même auteur, l'éducation, c'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. C'est dire que la responsabilité des parents est multiple. Il n'est pas simplement développer un aspect de l'enfant. Moi, je veux faire de toi un champion olympique. Bon, on y arrivera peut-être, mais on ne fera pas nécessairement un enfant selon le plan divin. C'est le développement harmonieux des trois dimensions principales de l'être humain, physique, mentale et spirituelle. Si nous voulons un foyer équilibré et des enfants équilibrés, il faudra qu'il y ait l'équilibre de ces dimensions-là. Ça me paraît extrêmement important. Jim Dobson, dans un de ses livres, que je vous recommande, Dare to Discipline, oser discipliner en français, a ici une parole choc qui est malheureusement très juste. Le meilleur moment pour commencer à désamorcer la bombe de l'adolescence, c'est 12 ans avant qu'elle n'arrive. Si vous faites le calcul, C'est au début. Autrement dit. Et pourtant, combien de fois, arrivé à l'adolescence, on dit « Ouh là là, on va commencer à lire des livres sur la question. » Écoutez, si vous décidez de faire un élevage d'abeilles et que vous n'y connaissez rien, vous allez aller dans les librairies acheter des bouquins sur les abeilles pour savoir comment on fait les ruches, comment on arrive à récolter le miel sans se faire piquer, etc. Vous allez vous instruire là-dessus pour ne pas faire des bêtises parce que vous avez le désir d'avoir un bénéfice de ça. Et on s'embarquerait dans l'éducation des enfants en prenant pour acquis qu'on sait tout faire parfaitement et qu'on sait comment il faut faire et de se poser la question 12 ans trop tard. Le meilleur moment pour commencer à désamorcer la bombe de l'adolescence, c'est 12 ans avant qu'elle n'arrive. C'est extrêmement vrai. Numéro 3, instruire en donnant un modèle. Le texte de l'Exode souligne cette dimension-là. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?» Tu lui répondras « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. » Quand les enfants vous posent des questions, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? On est simplement en train, non pas de les instruire en les chargeant de connaissances, mais on les éduque en leur donnant un exemple, un modèle. Les enfants ont besoin d'un modèle à reproduire. Et ils vont reproduire un modèle. À ce moment-là, nous sentons tout d'un coup sur nos épaules la responsabilité d'être un vrai modèle pour eux. Pas seulement un exemple. « Ah, c'est très mauvais de fumer, mon garçon. Ne fume pas. C'est très mauvais. C'est une cochonnerie, ça va te tuer. » Mais si je dis ça avec la cigarette à la bouche, ça donne quoi? Je prends là un exemple flagrant pour ne mettre personne mal à l'aise, mais vous pouvez imaginer qu'il en est de même pour tous les aspects de notre vie. Les enfants ont besoin non pas seulement qu'on leur dise « Ah, mais ça c'est bien, ça c'est mal, c'est comme si qu'il faut faire. » Ils ont besoin de nous voir le faire pour être convaincus que c'est juste. Et ils le recevront s'ils se rendent compte que nous avons nous aussi la conviction profonde que ça c'est bien et que ça c'est mal, parce que nous le vivons aussi. Un caractère ne s'acquiert pas par hasard. Un caractère droit ne s'acquiert que par des efforts persévérants, inlassables, en utilisant à la gloire de Dieu tous les talents et toutes les facultés reçues. Là encore, persévérance, inlassable. Numéro 4, établir une relation de confiance et d'encouragement. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous met en garde. Il y a d'ailleurs dans ce passage plusieurs mises en garde pour différentes sortes de relations humaines, mais il avait l'air de connaître les pères, où il dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » L'idée est donc d'établir des relations, des relations de confiance, des relations qui sont encourageantes. Dans le cadre de ce que l'on vient de dire précédemment, la notion de modèle, être un modèle, c'est-à-dire être capable de faire à l'avance ce que nous voudrions que eux soient capables de faire aussi. Numéro 5, enseigner l'obéissance. Ce n'est pas quelque chose qui tombe par hasard. Regardez ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Du même auteur, l'apôtre Paul dans Éphésiens, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » L'obéissance n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est évident, nous aurons du mal, en tant que parents, à apprendre l'obéissance, figurez-vous, si nous ne l'avons pas apprise nous-mêmes. C'est évident. Mais remarquez ici, le mode d'emploi divin prévoit de corriger en instruisant, selon le Seigneur. C'est donc tout un programme de guider, et de retenir, et de conduire. C'est parce que l'éducation au foyer est déficiente que la jeunesse est si peu disposée à se soumettre à une autorité bien comprise. Je suis mère, je sais de quoi je parle lorsque je dis que les jeunes ne sont pas seulement mieux protégés, mais encore plus heureux lorsqu'ils obéissent à une saine discipline que lorsqu'ils suivent leurs propres penchants. Intéressant de voir une mère qui explique ça. Et c'est vrai, on se rend bien compte que même si les enfants sont constamment en train de défier les barrières qu'on a mises, ils sont en réalité en train de tester pour savoir si nos barrières sont solides. Et ils ont besoin de barrières solides pour s'appuyer dessus. C'est en fait de cela dont ils ont besoin. Et cette mère dit, ils ne sont pas non seulement mieux protégés, mais ils sont eux-mêmes plus heureux. Bien que ce texte ait été écrit il y a pas loin d'un siècle, je crois qu'il est extrêmement vrai aujourd'hui. Numéro 6, exercer une discipline équilibrée. Proverbe chapitre 3 dit ceci, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Alors ça, c'est pas toujours évident à comprendre non plus pour les enfants. Parce que si vous avez eu des enfants, il vous est sans doute arrivé de donner une correction à un enfant et de l'entendre dire « c'est parce que tu m'aimes pas ». Je peux imaginer ça parce que j'ai été enfant aussi, ça m'est arrivé, hein. Mais il m'est arrivé d'être parent et de comprendre les choses en étant de l'autre côté de la barrière. C'est vrai que c'est difficile pour un enfant de comprendre que lorsqu'il y a une correction, il y a de l'amour derrière. Ça dépend peut-être de la façon dont on le fait. Mais réfléchissez en tant qu'adulte, est-ce qu'il ne nous est pas aussi difficile, en lisant ce texte, de comprendre que Dieu a aussi de l'amour dans les épreuves qu'il laisse en travers de notre chemin parfois. Et on en avait parlé en parlant de la souffrance. Lorsque les choses ne vont pas exactement comme nous voulons, est-ce que nous ne sommes pas en train de lever le poing contre Dieu en lui demandant ce qui lui arrive, de nous embêter ? Et de poser la question, si tu m'aimais, tu ferais peut-être les choses autrement. Nous, adultes, nous retrouvons exactement dans la situation de l'enfant qui prend une fessée et qui dit à son père, c'est parce que tu m'aimes pas. Ça peut nous aider peut-être à voir les choses aussi, comme les jeunes le voient, et d'aider à comprendre que dans la correction, il y a de l'amour. Jim Dobson ici donne un exemple concret de cela. C'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en français, « Oser discipliner ». C'est un livre qui a eu plusieurs générations, vous pouvez l'avoir en français. J'ai ici traduit un passage de ce livre qui est extrêmement parlant. Il est très important pour un enfant de respecter ses parents, non pas pour satisfaire leur ego, mais pour que la relation de l'enfant avec ses parents constitue la base de son attitude envers les autres. Vous ne ferez jamais de tort à un enfant si vous suivez la technique suivante. Précisez les règles à l'avance. Ne laissez aucun doute sur ce qui est un comportement acceptable ou non. Quand l'enfant choisit de défier avec audace les limites établies, donnez-lui de bonnes raisons de le regretter. Et en tout temps, montrer de l'amour, de l'affection, de la bonté et de la compréhension. La discipline et l'amour ne sont pas opposés, l'un est une fonction de l'autre. Alors j'ai conscience, comme James Dobson d'ailleurs dans les livres qu'il écrit, à bien des égards de remonter le courant habituel de la société dans laquelle on est. Mais mes amis, si nous voulons que le christianisme serve à quelque chose et qu'il ait un impact dans nos familles, il faudra aller chercher les valeurs qui sont dans la parole de Dieu. C'est ici une explication concrète de ces valeurs, de ce que représente la discipline bien comprise, honnête, juste, saine, qui définit les règles et qui est conséquent. C'est cette notion d'être conséquent qui est souvent chez les enfants la plus grosse difficulté. Être conséquent. Numéro 7, protéger contre le mal et le péché. C'est la responsabilité que nous avons en tant que parents. Si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux, dit Jésus, pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est une de ces expressions pittoresques de Jésus qui montre à quel point il nous considère comme responsables de cette éducation des enfants et des petits. Si quelqu'un scandalisait un de ses petits, oh, vous feriez mieux de le jeter à la mer, celui-là. Nous avons la responsabilité en tant que parents de protéger et de montrer ce qui est le mal, ce qui est le bien, ce qui est le péché, ce qui ne l'est pas. Sans quoi, nous nous écartons à nouveau du mode d'emploi. Et nous ne pouvons pas non plus, à ce moment-là, indiquer à la génération suivante quelles vont être les conséquences dans un domaine et dans l'autre. Il faut que nous les connaissions nous-mêmes et soyons capables de les leur enseigner comme modèle. La puissance des prières d'une mère ne peut être évaluée. C'est toujours la même mère de famille qui écrit ça. Celle qui s'agenouille aux côtés de son fils et de sa fille, à l'heure où ils devront affronter les problèmes de l'enfance et les dangers de la jeunesse, ne connaîtra qu'au jour du jugement l'influence que ces prières auront exercée sur leur vie. J'aime ces paroles, c'est un encouragement. J'entends dans cette parole d'une mère l'idée que je crois très vraie, c'est que la prière d'une mère est toute particulière à l'oreille de Dieu. Vous savez, il y a un lien particulier entre la mère et l'enfant. Il y a un lien différent entre le père et ses enfants. Il peut être très fort, mais il y a un lien particulier entre la mère et l'enfant, qui est issu de son propre corps. Je crois que la prière d'une mère est entendue d'une façon spéciale chez Dieu. Il y a dans les Écritures des exemples qui sont intéressants, et j'aimerais terminer avec ça. Je pense à l'exemple de Daniel. Trouve dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Mais c'est un jeune qui va se trouver probablement orphelin dans la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Il est de famille royale. Ses parents sont vraisemblablement tués dans la guerre. Et lui est capturé et déporté à Babylone. Il a probablement quelque chose comme 17 ans. Arrivé à Babylone, on va essayer de faire à cet hébreu, Daniel, et ses amis, un lavage de cerveau. On va essayer de les babyloniser, de les incorporer dans la culture, dans la religion, dans les pratiques du pays qui les accueille très généreusement après avoir rasé leur pays. Mais Daniel et ses amis, adolescents, vont rester droits et fidèles, totalement. C'est le premier chapitre de ce livre que vous pouvez lire, Daniel chapitre 1er, c'est un chapitre impressionnant où l'on voit Daniel et ses compagnons qui restent droits et fidèles en toutes circonstances. Ils sont capables de résister ce lavage de cerveau culturel qui leur est fait. Ils restent non seulement fidèles à leur Dieu, à leur foi, mais aussi à ce qu'ils ont appris, à leur pratique. Où est-ce qu'ils ont appris ça, dites-moi? Ils l'ont appris à la maison. Ils l'ont appris à la maison. À 17 ans, ces adolescents sont des adolescents solides, privés de leurs parents, privés du cadre social qui pouvait les soutenir jusque-là. Ils se retrouvent seuls à l'étranger. Ils ont des valeurs. Ils les gardent, ils les tiennent, parce qu'ils savent que ce sont des valeurs qui sortent des Écritures. Et ils y tiennent à tout prix. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Chez eux, sur les genoux de leur maman, en travaillant avec leur père, à la maison. Où voulez-vous qu'il l'ait appris? Où? Où d'autres peut-on apprendre à devenir solide comme ça? Un autre exemple dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, On ne connaît pas son nom, c'est une petite fille qui a été volée à ses parents. Il y avait en Israël une situation de guerre avec la Syrie, et les Syriens venaient régulièrement dans les villes et les villages d'Israël faire des razzias. Et un jour, une bande est passée de Syriens, et ils ont emporté cette petite fille, ils l'ont arrachée à ses parents. Vous imaginez la douleur de ses parents de voir tout d'un coup cette petite fille partie emportée par un cavalier, finie, disparue. Cette petite fille va être vendue comme esclave. Vous avez cette histoire dans votre Ancien Testament. Elle va être vendue comme esclave à un homme qui s'appelle Naaman et qui est un des chefs de l'armée syrienne. Elle va servir la femme de Naaman. Un jour, Naaman se promène dans la ville et puis il voit un marchand d'esclaves. Et au lieu de ramener des fleurs à sa femme, il va lui ramener une petite fille comme esclave. Ça s'achète et puis ça se vend. Il va lui ramener cette petite fille-là. Quel âge elle a, je ne sais pas. Le texte ne dit pas. Mais le texte sous-entend qu'elle est bien, bien jeune. Et un jour, la maman est très triste. Cette femme est effondrée et la petite fille lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» Alors cette femme qui est sa maîtresse, sa patronne, va lui dire « Mon mari, ton maître est malade et il va mourir. » Et qu'est-ce qu'il a? Il a la lèpre. Et à cette époque-là, la lèpre, c'est épouvantable. On est chassé de la société, on est à part avec tous les lépreux et on reste là jusqu'à ce qu'on meure. C'est un grand homme, c'est un général de l'armée. Et la petite fille lui dit, mais c'est pas un problème. En Israël, on a un prophète. Va donc le voir. Le prophète va guérir. Et l'aplomb et l'assurance de cette petite fille va déconcerter toute cette famille au point que finalement Naaman, après des négociations avec le roi, etc., va aller en Israël. Il va aller voir le prophète. Et le prophète va le guérir. Et Naaman va rentrer chez lui guéri. Où donc cette petite fille a-t-elle appris quelle est la puissance de son Dieu et quelle est la puissance de ses prophètes? Où est-ce qu'elle a appris ça, dites-moi? À la télévision? Non. Sur les genoux de sa maman, sans aucun doute. C'est dire à quel point, et ce ne sont que deux exemples, on pourrait en prendre d'autres dans les Écritures, c'est dire à quel point ce qui se passe à la maison est extrêmement important pour construire des hommes et des femmes de demain. Je crois que le mode d'emploi, qui est très clair pour constituer des familles selon la volonté, le plan originel de Dieu, ce plan est dans les Saintes Écritures, et s'il était suivi aujourd'hui, ce plan nous aurait épargné des souffrances énormes dans nos familles, dans nos foyers. De la même manière, ce plan, qui est aussi un plan pour l'éducation, aurait permis de construire des hommes et des femmes solides, équilibrés, d'après le plan que Dieu avait prévu. Josué avait lancé au peuple d'Israël cette interpellation, et j'aimerais terminer avec ça. Il avait dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Oh, c'est un peu comme s'il leur avait lancé ce défi, « Les amis, faites ce que vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais pour moi, l'Éternel, je le connais. Pour moi, c'est clair. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Parce qu'il y a un plan. Il y a un plan. Et ce plan, je crois qu'il a tout intérêt à être connu, parce qu'il nous permet en partie de répondre à cette question qui est la nôtre dans cette série, de savoir à quoi ça sert le christianisme. Je crois que le christianisme de la Bible est extrêmement puissant pour nous montrer ce qu'est le plan de Dieu pour le couple, ce qu'est le plan de Dieu pour la famille. Et je souhaite que vous ayez l'occasion de recevoir aussi ces instructions que le Seigneur a mis dans sa parole, parce qu'elles nous permettent de vivre heureux ici-bas. Et c'est ce que nous cherchons aussi. Merci.